Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Chassé, Croisé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Sur l'interphone. Nicole, je m'en vais.
Bien, monsieur, bon week-end.
Vous aussi. Il se lève de son bureau, prend sa mallette et quitte la pièce. Il est grand, mince, une épaisse chevelure grisonnante. Les yeux bleus profonds. Son regard a quelque chose d'énergique. À 40 ans, il est industriel de produits pharmaceutiques et s'appelle Félicien Dupré. Félicien suit le couloir de ses bureaux qui se trouve au 5e étage d'un immeuble neuf à La Défense. Prend l'ascenseur. Arrivé au rez-de-chaussée, il sort de l'ascenseur. Suit le hall d'entrée et sort. Il fait nuit, il est 20h, nous sommes en novembre. Félicien monte dans sa voiture, qui est stationnée au pied de l'immeuble, et part. Il est arrivé chez lui, quartier du Marais, immeuble cossu du 19e siècle. Il entre dans l'allée. Et monte au 2e étage. Il ne prend jamais l'ascenseur pour monter chez lui. À son travail, ce n'est pas la même chose. Un PDG ne prend pas les escaliers. Il sonne à son appartement. La bonne va lui ouvrir. C'est une femme de 22 ans, mince, brune. Elle n'est pas très grande.
Bonjour Félicie.
Bonjour monsieur.
Madame est là?
Oui, monsieur, elle est dans sa chambre et se prépare.
Bien.
et se dirige dans la chambre de sa femme. L'appartement est un grand 5 pièces, hall d'entrée, couloir à droite, salon, salle à manger, bureau à gauche, cuisine, deux chambres, deux salles de bain. Tout est clair, les murs sont tapissés de velours bleu pâle, il y a des moulures blanches. Les meubles sont Louis XV. Il frappe à la porte de la chambre de sa femme.
Entrez.
Il entre. Il voit sa femme remplissant de vêtements une petite valise de cuir blanc. La valise est sur une chaise. L'armoire est ouverte. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Il s'approche d'elle. L'embrasse sur la joue. Amélie est grande, mince, cheveux demi-longs blonds qui ondulent, yeux bleus. Elle a un regard là, fatigué, mais ne manque pas de distinction. Elle est habillée d'un tailleur beige. À 42 ans, elle ne travaille pas. Elle lui demande:
tu n'es pas trop fatigué?
Non, ça va.
Parce que l'on pourrait partir demain matin.
Non, non, j'aime mieux me coucher là-bas.
Bon, je suis prête. Ta valise aussi est faite.
Elle ferme la valise. Prend dans l'armoire un manteau de fourrure et le met. Prend la valise et ils sortent de la chambre. La bonne accourt vers eux. Où vous cherchez votre valise, monsieur? Elle ouvre la porte de la chambre de Félicien. Et en ressort avec une petite valise en cuir noir. Il la prend. Merci. Au revoir, Félicie. Bonne route, monsieur et madame. Ils sortent de l'appartement. Félicien et Amélie ont une maison en Vendée. Ils vont de temps en temps passer de fin de semaine là-bas. La nuit. Félicien a mis le chauffage, il n'aime pas être trop habillé. Il n'y a pas de circulation. Amélie somnole. La chaleur, la monotonie du voyage l'endort presque. Lui, Félicien, regarde droit devant lui, les deux mains sur le volant. Après 2 heures de route, il voit le panneau qui annonce la fin du village de Saint-Martin. Au premier tournant qu'il voit, il s'arrête. Qui réveille Amélie.
« Que se passe-t-il ? »
Félicien ne répond pas. Il regarde droit devant lui, ouvre le vide en poche. Il sort du coton et une petite bouteille. Il ouvre et verse le contenu sur du coton. Puis le tampon sur le visage de sa femme. Surprise, elle n'a pas eu le temps de bien réagir. Il appuie bien fortement sur le visage pendant quelques secondes. Lorsqu'il enlève le coton, elle ne bouge plus. Il sort de voiture. Prend la bouteille et le coton qu'il met dans sa poche et met sa femme à la place du chauffeur. Il bloque les freins et ferme la porte. Une voiture arrive et s'arrête. En sort une femme, on ne la voit pas très bien. Elle va vers lui. Fais un signe de tête. Voilà, il me reste plus qu'à pousser la voiture dans le ravin. Tu m'aides ? Elle fait oui de la tête. Ils se mettent tous les deux derrière la voiture et la poussent. Tu en as mis du temps. Je ne me souvenais plus où tu devais t'arrêter. Je t'avais bien dit, donc du village. Ils sont au bord du ravin, poussent. Et la voiture dégringole. Il lui dit, vite, partons. Il tourne en vitesse vers la voiture de la femme, entre dedans. Et démarre. Ici un souffle. Paris maintenant. C'est elle qui conduit. Demi-heure de route, il se détend et la regarde. « Tu es bien, blonde. Tu trouves ?»« Oui. » Arrivé chez lui, il se déshabille. elle aussi. Elle quitte sa perruque. C'est la bonne. Il est 4 heures du matin. Il s'approche d'elle. La prend à la taille. Tu viens ?
Non, pas ce soir. Je suis crispée.
Il a pris le train pour la Vendée. Et le surlendemain, il a prévenu la gendarmerie de la disparition de sa femme.
Ma femme est partie de chez moi avant-hier matin en voiture. Je devais la retrouver le lendemain dans ma maison de campagne. Elle n'est pas encore arrivée.
Font des recherches dans toute la France. Une semaine plus tard, un gendarme sonne à la porte de Félicien. Il ouvre.
Monsieur Félicien Dupré.
Oui.
On a retrouvé votre voiture.
Et ma femme.
Veuillez nous suivre.
Les gendarmes le font monter dans leur voiture. Vers le précipice. On est en train de remonter la voiture. Les gendarmes et Félicien sortent de voiture. Un gendarme s'approche d'eux.
Où est ma femme ?
On n'a pas retrouvé votre femme. La voiture est vide. Venez voir si c'est bien la vôtre.
Il s'approche de la voiture qui a été déposée à terre.
Oui, c'est bien la mienne et ma femme.
On n'a pas encore retrouvé. Une équipe cherche dans le ravin.
Semaine plus tard, Félicien est convoqué à la gendarmerie de la petite ville. Un gendarme le reçoit dans son bureau. C'est un homme maigre, à cheveux et moustaches noires.
Voilà, monsieur, nous n'avons pas retrouvé votre femme. Vous voyez bien, je dis votre femme, et non le corps de votre femme. Car qui nous dit que votre femme était dans la voiture lorsqu'elle est tombée ?
Elle est partie seule ?
Oui ?
L'homme hausse ses épaules. Nous allons continuer les recherches dans toute la France et nous verrons bien.
Vous étiez disputé ?
Non.
Elle était déprimée avant de... avait des soucis ?
Non.
Ce n'est pas possible que l'on n'ait pas retrouvé son corps.
Qui vous dit qu'elle était dans cette voiture ?
Elle est bien partie avec. Et puis, la voiture, elle n'est pas tombée toute seule.
Elle a pu être poussée. Vous êtes assuré ?
Oui, tout risque.
Et votre femme ?
Pas d'assurance sur la vie.
Deux semaines plus tard, il demande la permission de rentrer à Paris. Ça lui a été accordé. Arrive chez lui à 18h. C'est la bonne qui lui ouvre.
Bonjour. Bonjour.
Il entre. Elle ferme la porte. Se dirige au salon. Elle le suit. S'assoit sur un fauteuil. Elle a l'air épuisée. Elle s'assoit à ses pieds. Elle lui prend les mains.
Ça a été dur?
Il soupire.
Long. Et toi? On est venu me poser des questions. Quand est-ce qu'elle était partie? Et toi? Est-ce que vous étiez un couple uni? La routine? Ça s'est bien passé. Elle lui serre très fort les mains. Je t'aime, tu sais. Oui, je sais, Félicie.
Le temps passe. Félicie et Félicien vivent ensemble sans vraiment vivre ensemble. À cause des voisins, de la police. Elle joue à la bonne. Arrive à 8h et repart à 20h. Six mois plus tard, Félicien est convoqué à la préfecture de police. C'est pour lui dire que les recherches pour retrouver sa femme n'ont rien donné et qu'il lui donne un papier comme quoi la police arrête les recherches, que pendant 10 ans il ne pourra pas vendre les biens communs et la fortune personnelle de sa femme. Entrant chez lui, Félicien est tout heureux. À peine la porte est-elle ouverte, qu'il la prend dans ses bras. «
Ça y est, chérie, c'est fini. » Nous sommes libres.
Et il l'emmène au salon. Tu sais,
j'ai envie de quitter Paris et d'aller en Vendée. Seulement que dans 3 mois, nous partirons séparément. Toi en train, moi en voiture. Tu changeras de nom. Tu t'appelleras Adèle Dumont.
Il faut que petit à petit les gens s'habituent à nous voir ensemble. Nous vivrons vraiment ensemble que dans 1 an. Mais avant, il faudra beaucoup sortir ensemble. Il l'embrasse.
Le jour du départ, tu changeras la couleur de tes cheveux. Tu seras blonde.
Trois mois plus tard, nous sommes en juillet. Le 2 juillet, à 8h, chacun part de son côté. Adèle a fait teindre ses cheveux, changé sa façon de s'habiller. Elle paraît plus grande, distinguée. Félicien file en voiture, il a hâte d'arriver. Adèle, dans son compartiment, s'ennuie. Félicien arrive,
l'après-midi. La maison se trouve à la limite d'un petit village. Elle est isolée dans un grand parc entouré d'un mur. C'est une maison du 19e siècle de 3 étages, avec terrasse sur le devant. Les pièces sont vastes et sombres. Félicien y a fait installer le chauffage collectif et des salles de bain WC. Il y a très peu de meubles, mais ce sont des meubles de collection de tout style. Cette maison, Félicien l'aime, parce qu'elle a du caractère et qu'il est vraiment à lui. Il arrête sa voiture de l'entrée de la maison. Sort de voiture et ouvre la maison. Éclair, hall d'entrée au fond des escaliers de pierre. Il ouvre une porte à sa droite qui donne au salon. La pièce est meublée à l'anglaise. Fauteuil de cuir marron, bibliothèque, bar, chenifi. Il s'assoit sur un fauteuil. Et attend. Deux heures plus tard, Adèle arrive. Un taxi l'a menée jusqu'à la maison. Félicien l'accueille devant l'entrée. Elle n'a pas de bagages. C'est lui qui les a pris avec la voiture. Il l'embrasse.
Ça s'est bien passé ton voyage ?
Oui, je suis un peu ennuyé. Il lui montre la maison, car il n'y est jamais allé.
C'est beau, mais lugubre. Est-ce que ta femme y a déjà vécu ?
Oui, bien sûr.
Y a-t-elle laissé des affaires ?
Non, je ne crois pas.
Tu sais, ça m'ennuie un peu. J'aurais mieux aimé qu'on en aille à l'étranger. Là, les gens risquent de danger. Non, ne crains rien. La maison est loin de tout. Pourquoi veux-tu que l'on vive ici ? J'aime cette maison.
Les jours passent. Adèle et Félicien passent leur journée à se promener dans les environs et à aller sur la plage. Félicien est très heureux. Adèle, elle n'aime pas être là. Elle se sent mal à l'aise. La maison est trop grande. Et puis, chaque fois qu'elle ouvre un tiroir ou un placard, elle craint d'y trouver quelque chose d'Amélie. À Paris, ce n'était pas la même chose. Elle connaissait l'appartement par cœur et les objets d'Amélie aussi. Un soir au lit, elle lui dit
« Ça ne te gêne pas de vivre tout près où elle est morte ?»«
Non, pour moi, cela faisait des années qu'elle était morte. » Elle le trouve froid, presque sans corps. Il voit qu'elle fait la tête. Alors, il lui fait l'amour pour qu'elle oublie. C'est Félicien qui fait les courses au village. Adèle a peur d'y aller. Pour les gens du village, il n'est pas qu'un Parisien qui a acheté une maison chez eux. La mort de sa femme n'a pas fait beaucoup de bruit. Les accidents de voiture, de vacanciers, surtout de Parisiens, n'en en compte plus. Et puis, avec une voiture de sport, elle devait rouler très vite.
Ce n'est pas étonnant qu'elle ait raté le virage.
Les jours passent. Adèle se détend et trouve la vie à la campagne bien agréable, surtout avec tout le confort. Un matin, Félicien est parti au village faire des courses. Adèle va au salon du rez-de-chaussée pour écouter la musique en attendant. Elle ouvre la porte et entre. La première chose qu'elle voit en rentrant, c'est un sac à main en croquis marron sur la table basse. Intriguée, elle s'approche. De près, elle reconnaît le sac. Un sac à Amélie. Que fait ce sac ici? Pourquoi Félicien l'a-t-il pris et mis sur la table? Elle est furieuse contre lui et s'assoit près de la table où se trouve le sac. Un quart d'heure plus tard, elle entend la voiture qui s'arrête devant le perron. La porte d'entrée qui s'ouvre. Elle sort du salon. Va au-devant de Félicien qui porte des paquets à la main. Félicien, viens voir. Attends chérie, je vais porter tout ça à la cuisine. C'est ce qu'il fait. Puis il va la retrouver. Elle le mène au salon. Toi qui as mis ce sac sur la table? Non? À qui il est? Elle hausse les épaules, comme si tu ne savais pas à qui il est. Non, je t'assure. Quoi? Rien. Pourquoi as-tu mis ce sac sur la table? Je n'ai pas mis ce sac sur la table. Alors qui? Je n'ai pas mis ce sac. Et à qui l'est-il? À Amélie, loue ses épaules. Ce n'est pas moi. Moi non plus. Il s'assoit. Bon, eh bien, il y était depuis notre arrivée. On l'aurait vu? Je ne sais pas. Mais ne fais pas cette tête-là. Pour cela, un sac d'Amélie qui traîne ici. Par hasard, c'est tout. N'en parlons plus. Adèle avoue à Félicien d'avoir sorti ce sac et de vouloir à tout prix vivre dans cette maison. Une nuit, elle entend dans son sommeil des pas. Se réveille en sursaut, éclaire la lampe de chevet. Les pas proviennent du couloir. Il se lève et sort de la chambre. Dans le couloir, il n'y a personne. C'est peut-être Félicien. Il frappe à la porte de sa chambre. Pas de réponse. Elle entre. Déoulie est dehors. Elle s'approche. Secoue. Félicien, Félicien. Il se réveille.
Qu'y a-t-il?
Il y a quelqu'un qui marche dans la maison.
Quoi?
Il se lève. Mets ses chaussures. Et
sortent de la chambre. Ils font toute la maison.
Personne. Tu as dû rêver.
Je t'assure.
Chut, retournons nous coucher. Je te trouve nerveux ces derniers temps. Pas pour dormir.
Il est vrai qu'Adèle devient nerveuse, irritable, mais il faut la comprendre. Chaque jour, elle trouve quelque chose, un objet, un vêtement qui a appartenu à sa maîtresse. Et ceci sur une table, une chaise, un placard. Beau en parler à Félicien, lui ne s'en inquiète pas. Elle a beau chercher à se souvenir, au début, s'il y avait tous ces objets. Et puis, de temps en temps, la nuit s'épare. Il lui arrive de se dire que Félicien est complice ou que c'est lui qui met ses objets, ses habits, pour qu'elle les voie et devienne folle. Lui ne se rend pas vraiment compte du sérieux de ses apparitions d'objets et se dit que ça lui passera. Il aime Adèle, mais pour lui ce n'est qu'une femme avec ses faiblesses. Mais voyait-il ce qu'elle voyait? Ou, s'il les voyait, il se disait peut-être que ses objets poudriers, foulard, parfum, avaient été déjà là dès le début de leur séjour et qu'on ne les avait pas vus. Une nuit, dans son lit, croyant entendre la voix d'Amélie qui lui dit qu'elle est une criminelle et qu'elle se vengera, sort de sa chambre en courant. Se réfugie dans la chambre de Félicien. Il est au lit. Il lui fait une place pour qu'elle se réfugie à côté de lui. C'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai entendu la voix d'Amélie. Je te mènerai bien chez le médecin, mais c'est trop dangereux. Il risquerait d'apprendre la vérité.
Partons, Félicien. Je crois qu'Amélie n'est pas morte ou que c'est son fantôme.
Arrête de divaguer comme cela. Nous partirons, je te le promets. Et pour ce qui est d'Amélie, elle est bien morte.
Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé le corps?
Que je sais, moi. Il a dû tomber plus loin ou être accroché quelque part. La voiture, en sautant, a dû éjecter le corps.
Elle tremble de tout son corps et n'a pas fait attention à ce qu'il a dit.
Nous n'aurions jamais dû la tuer. C'est un crime. Elle se venge.
Il la gifle. Arrête avec tes histoires. Elle pleure. Il éteint la lumière. Le lendemain matin, ils se sont réveillés sans faire de bruit et se sont retrouvés à la salle à manger pour prendre leur petit déjeuner. Elle a mis le plateau sur la table. Ils se sont assis l'un en face de l'autre.
Je veux m'en aller, Félicien. J'en ai assez.
Bien, nous partirons.
Quand?
Bientôt, à la fin de la semaine.
Elle se lève.
Et lui dit, il faut aussi que l'on se sépare.
Tu es complètement folle.
Non, je ne veux pas payer pour toi. C'est toi qui l'as tué. Pourquoi ça t'attelle à moi? C'est toi l'assassin.
Il se lève. La gifle.
Tu es un assassin. Un assassin.
Elle s'éloigne. Lui se rapproche d'elle.
Tu es un assassin. Ne me touche pas.
Elle s'éloigne en reculant. Cogne la commode. Lui s'avance.
Ne me touche pas.
Il avance toujours.
Ne me touche pas. Assassin.
Ta main.
frappe derrière un chandelier et le lui jette à la tête. Il tombe. Crie. Paniquée, elle se sauve en courant. Sort de la maison. Se retrouve sur la route avec une simple robe d'été. Il est 10h du matin, pas de voiture, elle court droit devant elle. Deux heures plus tard, passe une voiture de sport. Elle s'arrête. L'homme ouvre la vitre.
Mademoiselle, vous avez besoin d'aide ?
Elle ne répond pas.
Mademoiselle !
Elle fait vous de la tête.
Que puis-je faire pour vous ?
Amenez-moi à la ville la plus proche. Je dois prendre un train.
Il ouvre la porte de devant. Elle entre. Et la voiture démarre.
Vous avez des ennuis.
C'est ma grand-mère qui est malade. Ma voiture est tombée en panne, alors je ne savais plus quoi faire.
Elle regarde l'homme. Il est mince, brun, le visage sympathique, les yeux bleus, porte une veste en tweed et un pantalon marron, semble avoir dans les 35 ans.
Comment ? Moi, c'est Serge Briand. Et vous ?
Claudia.
C'est tout ?
Elle ne répond pas.
Où est votre voiture en panne ?
Plus loin. J'ai prévenu un garagiste.
À la gare d'une petite ville, mais avant de sortir de voiture.
Zut !
Que vous arrive-t-il ?
Je n'ai pas d'argent sur moi.
Il sourit.
Alors je vous amène à Paris.
Elle sourit. Il la trouve charmante et se demande qui elle peut bien être.
Vous êtes tout à fait un personnage de roman, vous savez, mademoiselle. Je suis écrivain.
De la journée et s'arrête devant un petit restaurant. Avant de sortir de voiture, lui demande
« Qu'a votre grand-mère ?»«
Le cœur. »«
Ah ! Que faites-vous dans la vie ?»«
Rien. Mon père était industriel. »«
Il est mort. » »«
Oui. »
Arrivé à Paris, lui demande où il faut l'amener.
Place de l'Étoile.
Bon, pour la place de l'Étoile.
Arrivé à la place de l'Étoile.
Je vous arrête ici.
Elle soupire.
lui sourit. Pour ma grand-mère, c'était faux. J'ai quitté mon père, je ne sais plus où aller.
Vous alors, vous avez de la chance d'être tombé sur moi et d'avoir un si joli sourire. Je vous emmène au restaurant, ensuite nous verrons.
Il aime l'imprévu. Cette aventure l'amuse et aimerait bien savoir qui est cette jeune fille.
Il n'est pas formidable.
76 de qui ?
Dure-toi.
Ah. Non, merci, Maxime.
J'ai emmené chez Maxime.
Que désirez-vous manger ?
N'importe quoi, j'ai une faim de loup.
T'as pas l'air en forme.
Demi-heure plus tard.
On peut dire que vous aviez faim.
Oui.
Encore du champagne,
si vous voulez.
Vous pouvez me dire qui vous êtes, charmante jeune fille.
Je suis Claudia.
Qui êtes-vous, Claudia ?
Moi ?
Il sourit.
De chez Matching.
Je vous emmène chez moi. Ne craignez rien, j'ai des chambres.
Entre dans son appartement qui se trouve dans un immeuble du 16e, immeuble cossu. 6 pièces, meublé Louis XVI, laqué blanc. Il lui montre l'appartement, sa chambre. Et sa salle de bain.
Voilà, ici c'est chez vous, ces 2 pièces sont à vous.
Merci.
Bonne nuit.
Tard dans la nuit, Claudia redevient Adèle. Elle s'habille. Sort de la chambre. Va dans la cuisine. Ouvre un tiroir du buffet. Et un autre. Et prend un couteau. Son visage est hagard, fixe. Elle sort de la cuisine. Et longe le couloir. Elle aimerait, elle veut, une envie irrésistible. Dans la main. Elle marche comme une somnambule et se dirige vers la porte de la chambre de Serge.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Chassé, croisé, dont c'était la première partie. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.